Montpellier Danse à 30 ans et c'est la dernière fois qu'on se retrouve dans cette émission quotidienne avec mon cher Manu Plaza pour vous présenter ce qui a fait sens dans cette édition.
Dernier magazine donc consacré à cette 30e édition, mais pour autant, on reviendra tout de même sur cette édition. Ce sera dans Tous au Poste probablement mercredi après qu'ait eu lieu la conférence bilan, puisqu'elle a été prévue ce matin et finalement elle a été reportée à demain matin. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas vous en faire écho aujourd'hui. Donc, eh bien, l'alternative, c'est de vous proposer une sorte de best-of de ces émissions.
Nous avons interviewé tout au long de ces deux semaines plusieurs chorégraphes, personnalités du public et autres acteurs de ce festival. Effectivement, c'est un pot-pourri que nous vous proposons aujourd'hui. On vous reviendra aussi en quelques mots sur ce week-end assez dense à Montpellier Danse.
Dans tous les sens.
Exactement. Alonso King, Maurice Béjart, la création de Mathilde Monnier et Dominique Figarella. Les festivités continuent encore aujourd'hui. Boris Charmatz à 19h à l'Opéra, au Studio Bagué. Mathilde Monnier pour sa seconde représentation. Et voilà, encore plein de choses, des vidéos, des conférences. Première séquence, best-of, Manu.
Avec pas mal de monde, un petit retour sur encore Alain Buffard et les commentaires que son spectacle a pu susciter, et puis aussi quoi d'autre, nos amis Bengolea et Chénio qui répondaient aux questions de François Barrez, également Kader Atou et quelques autres critiques de danse et chorégraphes qui s'expriment brièvement dans ce pot pourri.
Et bon appétit bien sûr.
Eh bien, moi, j'ai trouvé que c'était pas, alors pas seulement de la danse, et presque pas essentiellement de la danse, parce qu'on a affaire à des mouvements.
Aujourd'hui, la différence, le système coercitif est un peu différent des années 60. Moi, je suis né en 60, donc je ne connais pas, évidemment, je ne suis pas de cette période-là. Aujourd'hui, il me semble que c'est beaucoup plus pervers hein, de voir des méga écrans de télévision partout sur les terrasses aujourd'hui, et voir des foules entières se fighter, des matchs de foot, hein, et ne pas penser à autre chose. Pour moi, ça fait partie aussi de ce système-là, de comment on fait. Après, le foot, c'est très bien, ça ne m'intéresse pas, mais pourquoi pas. Mais il y a tout un système de valeurs marchandes, de l'économie, en fait, et de comment on rentre, on crée des besoins, tout simplement, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est pris, mais même sans le savoir, moi y compris. Hein.
Kader Atou, danseur chorégraphe de la compagnie Acrorap et actuel directeur du Centre chorégraphique national de La Rochelle.
Alors vous êtes ici présent à Montpellier Danse pour une création. Alors une création qui sort un peu de votre travail habituel, hein, parce que la dernière fois que vous êtes venu à Montpellier, c'était pour petitehistoire.com, une pièce poétique avec beaucoup d'émotions qui revenait sur votre enfance et des musiques découpées. Alors ça pouvait être du hip-hop, ça pouvait être Bach, mais là vous avez pris à bras le corps, vous êtes rentré, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans une symphonie qui vous suit depuis 14 ans. Alors, présentez-nous cette symphonie au titre un peu compliqué quand on est français.
La symphonie en question, c'est celle de Henri Górecki, qui est l'un des trois grands compositeurs polonais, qui a créé en 1976 la symphonie numéro 3, en fait. C'est une symphonie lente sur trois mouvements. Et c'est une symphonie, c'est une lamentation, en fait, qui dure à peu près une heure, en fait. Et il y a quelque chose de beau là-dedans, il y a quelque chose de... Oh. Je me souviens en tout cas, mais comme si c'était hier, la première fois quand j'ai écouté cette œuvre-là, ça m'a bouleversé, littéralement bouleversé. Je suis passé sur des états de corps pas triste, mais je dirais, à la frontière de la mélancolie ou de la tristesse, à des choses très joyeuses en tout cas, et avec quelque chose de profondément optimiste, avec de l'espoir. En tout cas, c'est ce qu'elle me renvoyait, cette symphonie. Et je me suis dit à ce moment-là que je ferais quelque chose dessus un jour. Ça a pris 14 ans, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai senti tout simplement que c'était le moment. Dans la troisième symphonie, on oscille musicalement sur deux modes, le majeur et le mineur. Pour ceux qui ne savent pas, le majeur en musique, c'est ce qui symbolise la gaieté, la joie en tout cas, quelque chose, la lumière. Et le mode mineur, c'est le contraire, c'est-à-dire les ténèbres, le côté sombre, la tristesse. Et en fait, du début jusqu'à la fin, on oscille entre ces deux modes-là. C'est-à-dire, c'est un va-et-vient constant entre le mineur et le majeur. Alors c'est, on a l'impression vraiment que c'est, comment dire, une vraie quête humaine en tout cas, quelque chose voilà, pour quelque chose qui est en constante élévation en plus, pour qu'à la fin, dans le troisième mouvement, se décline de manière nette, précise, et on ne peut pas revenir en arrière, le côté majeur, c'est-à-dire l'espoir, quoi.
Cécilia, François, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là pour la 30e édition de Montpellier Danse. Vous êtes là pour trois pièces, vos trois dernières pièces, quasiment vos trois premières pièces. On a beaucoup parlé de ces trois pièces-là. On a beaucoup parlé de Pâquerette, on a beaucoup parlé de Sylphide, on a beaucoup parlé de l'irruption, de cette réirruption, comme ça, du corps, de la sexualité dans la danse, de choses qu'on avait un peu mis de côté. Dans cette façon de réintroduire un rapport au corps qui est complètement différent, qui est aussi un rapport à, comme vous avez pu le dire en conférence de presse, un rapport sur l'intérieur du corps autant que sur l'extérieur. Cette chose-là qui a traversé il y a très longtemps l'histoire de la danse et puis qui a été complètement oubliée, comment vous la faites ressurgir ?
C'est vrai que dans chaque pièce, on rêve de ne pas considérer notre corps comme une seule mécanique ou une seule signe dans l'espace, mais qu'on peut être un corps plein, un corps creux, un corps à déchirer, un corps à pénétrer, un corps à étouffer, cette espèce d'étirer ou d'élargir ce qu'on croit que la danse peut nous faire faire, et que elle peut, on adore faire des battements et on adore faire des sauts de chat, mais peut-être si on fait un saut de chat, c'est aussi en fait que un glaive nous transperce, et que du coup il y a quelque chose qui des circuits, des trajets, des mythologies qui nous enveloppent et nous déchirent.
Cette façon de plonger dans la mythologie, c'est une façon de faire ressurgir quoi, les vieux tabous, les vieilles peurs, ou juste une autre modernité, une autre façon de penser?
Les mythes nous aident à faire des pas, parce qu'on a vu qu'auparavant dans l'histoire, il y a bien eu des héros ou des héros vaincus qui ont réussi ou pas réussi à faire des prouesses ou des aventures invraisemblables. Donc, comme on a dit tout à l'heure à la conférence de presse, on trouve d'abord la situation dans laquelle on veut se mettre physiquement, que ce soit un god d'Alanus qui transforme notre rapport symbologique au corps nu, et aussi ça construit des imaginaires chez les spectateurs et chez nous qui permet certains gestes et certains temps de s'écouler d'une façon précise et singulière. Et après, ben c'est fit, c'est pareil, on a les dispositifs de latex pour être exclu de la lumière, de l'air, et pour être anéanti dans nos fonctions. Et après, on se demande qui a pu nommer quelque chose de l'ordre du semblable dans la situation ou dans la construction du monde pour presque emprunter les mythes et les coller à notre expérience comme si c'était les parents de l'expérience, cette mythe, comme s'ils devenaient venaient protéger nos actions et On sont très emparés dans ce sens par l'histoire, parce que on n'est pas seul, isolé à être les artistes qui inventent, mais on redécouvre des possibilités physiques qui étaient déjà là auparavant, j'ai l'impression.
C'est Cécilia Bengolea au micro de François Barrez. Cécilia Bengolea et son acolyte François Chéniaud, qui étaient finalement des artistes très importants dans cette programmation. Ça faisait partie de la relève, la jeune garde, à qui Jean-Paul Montanari, directeur du festival, a accordé 3 spectacles, une mini-rétrospective de leur boulot.
Voilà, ce qui peut peut-être augurer de ce que seront les éditions prochaines, mais on en saura davantage, j'imagine, à l'issue de la conférence de presse bilan qui aura lieu demain matin, puisqu'évidemment, il sera forcément question de l'avenir, comme c'est souvent le cas.
Manu Plaza, vous étiez hier soir à la création de Mathilde Monnier et Dominique Figarella, S'Opéra, un univers tout à fait glissant et savonneux.
Que de mousse.
Qu'en avez-vous pensé ?
Eh bien, c'était très, très nuageux, très, très onirique dans cette première partie, cette espèce de limace aérienne, on pourrait dire, parce que très, très flottante comme ça. Sous laquelle on devine des formes humaines, on met un moment à les deviner, à les percevoir, ces formes humaines qui finalement sortent un peu comme ça de leur cocon pour se retrouver autour de ce qui figure une toile, qui devient à la fois un plateau et un objet parfois magnétique, parfois qui repousse, parfois encombrant, parfois glissant aussi, parfois table de spiritisme presque par moment. Voilà, c'était la nouvelle création donc de Mathilde Monnier que l'on peut voir encore ce soir au théâtre de Gramont. Et nous avions la visite de Monsieur le ministre de la Culture d'ailleurs lors de cette représentation hier soir.
Frédéric Mitterrand était là hier soir à Montpellier pour assister à la première partie de Maurice Béjart et au spectacle de Mathilde Monnier. Il en a profité pour faire ses petites affaires. On pouvait lire aujourd'hui dans la presse qu'il était aux côtés d'Hélène Mandrou pour penser l'éventualité d'un parking sous le Pérou. Il doit s'agir de quelque chose de culturel, j'imagine. Je ne sais pas.
Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de tout ça. Parfait, très bien. Pour ce qui nous concerne, eh bien, encore pas mal de choses à voir dans les 2 jours de festival qui nous restent, puisqu'il se termine demain.
N'oubliez pas que le festival, ce n'est pas que des spectacles, ce n'est pas qu'en soirée, c'est aussi en journée. Et aujourd'hui, à 15h, dans la salle Maurice Béjart, donc aux Ursulines, fraîchement inaugurée, une rétrospective de films autour de Mathilde Monnier. C'est de 15h à 17h30, il n'y a pas moins de 6 films. Ses premières pièces, Pudic Acide, Ecstasy, jusqu'à des pièces plus récentes, 2008 Vallée avec Philippe Catherine. Voilà, plusieurs films assez différents qui montrent justement l'étendue de son travail. Ça sera succédé à 17h30 par une conférence autour de son œuvre, de l'œuvre de Mathilde Monnier, par Bruno Tackels, qui est théoricien,
essayiste,
et qui écrit notamment dans la revue Mouvement.
Et puis Boris Charmatz, qu'on aura hélas pas eu en interview, ça s'est joué à un cheveu près, mais qui l'on peut voir à 19h avec sa création en compagnie de Médéric Collignon pour Improvisation, un spectacle là encore qui était complet bien avant que le festival ne démarre, me semble-t-il.
Un spectacle autour, comme son nom l'indique, de l'improvisation entre un danseur chorégraphe, Boris Charmatz, et un jazzman trompettiste spécialiste du cornet, petite trompette de poche, grand improvisateur, hyperactif de la musique jazz, Médéric Collignon.
Voilà, on va écouter à présent une seconde séquence best-of où l'on aura le point de vue des critiques que sont Agnès Izrin et Lise Hott sur quelques spectacles comme ça, des petits extraits très très courts. Et puis quoi d'autre ? Eh bien, c'est à suivre tout de suite, vous allez découvrir ça.
Mais pour l'heure, écoutons Régine Chopineau. Elle était justement au micro de Lise Hott que nous retrouvons dès demain. Lise Hott, journaliste critique, notamment à Midi Libre. Et elle explique assez bien le fait que, pour la première fois, elle va piocher dans son histoire personnelle.
Oui, moi, je fais partie j'ai fait partie des personnes qui ne supportaient pas pendant toutes ces années, enfin jusqu'à 2008, qui mélangeait les trucs intimes et puis les trucs artistiques. Et puis là, avec tous ces bouleversements et puis toutes ces années quand même, quoi, ça fait beaucoup de temps. J'ai eu ce besoin, donc complètement instinctif. Tout d'un coup, j'ai réalisé, c'était en allant en Nouvelle-Calédonie, où il y a une grande communauté pieds-noirs qui sont donc partis en 1962 et qui sont allés principalement sur la Grande Terre à Nouméa. Et je me retrouve face à cette chose de ma famille, c'est-à-dire de ces gens qui sont partis en 1962, et avec en plus la question du colon. Et à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais jamais abordé au niveau de comment je suis formée, au niveau de l'imaginaire, de mon énergie, de ce que je suis, de comment je bouge, de comment je regarde. Tout mon imaginaire, toutes mes odeurs, elles ont été initiées, construites par cette Algérie, qui est donc le pays, je veux dire, c'est mon pays. Et donc il a fallu que j'attende 57 balais pour tout d'un coup réaliser une chose sur laquelle j'avais bien soigneusement mis de côté. Donc j'assume, voilà. Aujourd'hui, j'assume de partir d'une chose privée.
Dans le livre « Les 30 ans du festival », il y a un découpage, 30 années en 3 fois 10 années, les années Bagoué, les années Montanari, les années Monnier. Est-ce qu'on trouve ce dosage-là dans cette 30e édition du festival ?
Moi, je dirais que oui, parce que, bon, alors bien sûr, il y a les grands chorégraphes que Lise citait, Forsythe, Cunningham, Anne-Thérèse Kersmaeker aussi, par exemple. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui ressort de ce festival, c'est finalement la pluralité des écritures possibles de la danse, de la chorégraphie. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça permet finalement, dans un temps très ramassé, de faire le tour de tout ce qui a pu traverser ces 30 ans au niveau justement de l'écriture et de la façon de s'y prendre avec comment construire une chorégraphie.
La pièce était censée évoquer la notion d'apparition et de disparition, ce qui en soi pouvait justifier le fait que certains spectateurs ne voient pas tout, tandis que d'autres en verraient des fragments. Mais le problème de ce postulat, c'est qu'en réalité, il y a des personnes qui n'ont rien vu du tout, et auquel cas ça posait la question de savoir s'il ne fallait pas, en raison de l'environnement sonore et des bruits occasionnés par divers objets, plonger complètement le spectateur dans le noir. Et d'autre part, pour ceux qui voyaient, la juxtaposition des fragments de ce qu'ils voyaient ne produisait pas un sens suffisamment significatif.
Oui, mais dans tous les cas, il y a des pièces réussies ou des pièces ratées. C'est pas la question des limites qu'on se met, c'est la question de ce qu'on voit.
C'est un jeu sur la sensualité, sur l'innocence. C'est très très féminin. Enfin, c'est pas par hasard s'il y a quatre filles qui l'interprètent. Voilà, ben, je pense que ça peut parler aux femmes. Alors, à noter que Anne-Thérèse Kersmaeker, pour tous ceux qui l'ont raté, eh bien, la pièce sera le 20 et 21 octobre, en fait, à la scène de Nîmes, au théâtre de Nîmes.
Fabrice Tramalingome, qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte de Pandore ?
Dans cette boîte-là, dans la boîte noire qui s'ouvre, on va trouver des espaces sensitifs, perceptifs. On va beaucoup rêver, en fait. Mais ça va être le travail du spectateur. Nous, on ouvre, et c'est le travail du spectateur, d'être curieux, d'être Pandore. Nous, on ouvre la boîte, et le spectateur est Pandore.
Voilà, viens danser, disait Gilbert Montagnier.
C'est vrai,
et toi, ça. Manu
Eh ben moi j'y retourne. Là c'était pour votre oreille gauche, pour votre oreille droite ça sera diffusé ultérieurement. Et puis vous recollerez les morceaux comme vous aviez à recoller également les morceaux de pas mal de pièces vues comme le disait à l'instant Fabrice Ramalingam. La danse c'est aussi le travail du spectateur.
La danse est un cri venu de l'intérieur, aurait pu dire Bernard Lavilliers.
Il aurait pu le dire et il ne l'a pas dit. C'est ainsi qu'on va refermer cette série d'émissions sur ces paroles pleines de sagesse. On vous rappelle que qu'il y a encore Mouvement sur la ville, le off du Festival Montpellier Danse, avec aujourd'hui Hélène Catala qui propose Talking Blues. C'est à l'espace Bernard Glandier à La Mosson cet après-midi à 15h. Je crois que c'est un peu plus tard également. C'est ça. À 15h à l'espace Bernard Glandier, donc à La Paillade ou à La Mosson, comme vous l'entendez. Hélène Catala, donc. Et puis demain, ce sera le dernier jour du festival et ce sera une journée essentiellement béjard à Montpellier. Tout d'abord avec le concours à voir à l'Opéra Berlioz à 20h. Et puis si vous êtes ailleurs dans la région, à Carcassonne, ce sera le presbytère à partir de 21h30 au Théâtre Jean Deschamps. Et puis si vous êtes à Aigues-Mortes, ce sera Casino des Esprits et L'Oiseau de Feu, Ce que l'amour me dit, Béjart encore.
Dernier rendez-vous avec Montpellier Danse, ça sera justement demain soir 18h30, 20h, la rétrospective globale de l'émission mardi consacrée aux coulisses de la création de Mathilde Monnier et Dominique Figarella, demain 18h30 sur Divergence FM. Et mercredi, un dernier Tous au Poste consacré à un vrai bilan où on pourra écouter ce qui s'est dit dans la conférence de presse.
Absolument, je crois qu'on a tout dit. Il ne reste plus qu'à aller ranger les petits répétos au placard en attendant l'année prochaine.
Allez, fais chauffer le tutu.
À bientôt, ciao.